Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez de démocratie. Quand on parle de démocratie, évidemment, on va du côté des États-Unis. Depuis Tocqueville, c'est le laboratoire de la démocratie.
Et oui, les tendances de fond, celles qui vont bouleverser nos mœurs et notre vie politique, y naissent. Dans sa conclusion à la seconde édition de son ouvrage fameux De la démocratie en Amérique, Tocqueville écrivait que l'un des traits les plus frappants et les plus généraux du système démocratique, ça lui paraissait être une forme de moyennisation. Je cite... Presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent, presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde. Tocqueville, l'aristocrate, déplorait, lui, cette tendance à l'uniformisation et au conformisme qu'il avait été l'un des premiers à déceler dans la dynamique interne des démocraties. Et il la voyait à l'œuvre, à la fois dans l'évolution sociale et dans les programmes politiques des partis en compétition pour le pouvoir. Les grandes passions intellectuelles, les grandes ambitions personnelles caractéristiques des régimes aristocratiques étaient censées disparaître. À leur place, la défense de petits intérêts vulgaires, la recherche de consensus, avec quand même le risque de la tyrannie majoritaire. Tout a ainsi longtemps convergé vers le centre aux États-Unis. Jusqu'à la fin des années 60, vous aviez des républicains de gauche et des démocrates de droite. Et jusqu'à une date encore plus récente, les élections, on le sait, se gagnaient au centre. Il fallait convaincre la frange des électeurs indécis, ce qu'on appelle les indépendants, qui refusent leur fidélité à l'un des deux grands partis rivaux, démocrates et républicains. Le système bipartisan lui-même était censé prévenir toute dérive extrémiste. Les radicaux y étaient marginalisés. Et dans les années 90, on inventa même la triangulation. Avec Bill Clinton, la gauche promettait de favoriser le business et elle était sécuritaire, tandis que la droite promettait des programmes sociaux ambitieux. Les présidents élus étaient souvent contraints de modérer leurs programmes de gouvernement afin de trouver des arrangements avec des majorités au Congrès passées lors des mi-termes, en particulier à l'opposition.
Mais Brice, cette période est terminée, l'élection de Trump y a mis fin.
Eh oui, le système politique des États-Unis paraît dorénavant inapte à susciter des compromis. La polarisation idéologique a atteint des niveaux jamais connus depuis la guerre de sécession. Elle n'oppose plus le sud esclavagiste au nord industriel, mais les habitants des grandes villes, en particulier celles situées sur les deux côtes, Atlantique et Pacifique, à ceux des comtés en déshérence de l'Amérique profonde. Vous avez d'un côté ceux qui veillent sur leur ligne et ceux qui se nourrissent mal et que menace l'obésité. Mais contrairement à tout ce qu'enseigne le marxisme, ce sont dorénavant les pauvres qui votent à droite et les riches à gauche, le niveau d'éducation faisant la différence. De ce clivage, le livre de Laurence Simon, Les bobos américains, offre un aperçu saisissant. L'auteur, ancienne chef du bureau de Radio France aux États-Unis, s'est installée sur place et elle a pris la nationalité américaine. Elle décrit une Amérique écartelée entre une ancienne classe ouvrière abandonnée à son sort et qui survit des aides sociales, tickets alimentaires, aide au logement, aide aux factures domestiques, Medicaid, d'un côté, et puis de l'autre, l'Amérique des bobos, ces urbains passés par les bonnes universités où ils ont été, selon elle, copieusement endoctrinés. Car, selon Laurence Simon, les bobos sont devenus les suiveurs des totos, une élite intellectuelle convertie aux nouvelles idéologies totalitaires de la gauche radicale. Persuadée de sa propre supériorité morale, cette nouvelle gauche radicale donc fait régner depuis plusieurs décennies déjà sur les campus un climat intellectuel délétère. Les étudiants ne sont plus invités à débattre, mais à assumer des identités de préférence victimaire et à empêcher, à interdire, à proscrire tout ce qui s'écarte d'un politiquement correct conçu de manière de plus en plus restrictive. Depuis le temps que se poursuit cette entreprise d'endoctrinement, il était inévitable, selon Laurence Simon, que cela se traduise par une gauchisation du Parti démocrate. Et c'est en effet ce qui se produit. Mais un populisme de gauche doit-il faire face au populisme de droite incarné par Trump? La question que se posent les stratèges du Parti démocrate est: pour l'emporter face à Trump en 2020, faut-il miser sur une candidature dite « excitante » sur une personnalité qui galvanise les électeurs démocrates et les pousse à venir voter, ou plutôt sur une personnalité moins clivante, mais capable de rassurer un électorat centriste dérouté par la récente radicalisation des démocrates. Eh bien, interrogé sur cette question par le New York Times, le politologue Dave Wasserman doute que les électeurs de la classe ouvrière blanche, passés chez Trump, puissent être séduits par ce tournant. Les démocrates devraient plutôt, selon lui, se débarrasser de l'image d'élite des deux côtes que trimballe tant l'universitaire Elizabeth Warren que Kamala Harris, la sénatrice de Californie, toutes deux comme on sait pressenties pour la candidature.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain.